Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'épître que nous venons d'entendre est tirée du livre de l'Apocalypse et elle nous décrit la gloire des saints que nous fêtons aujourd'hui. Comme il s'agit d'un très beau texte, mais un petit peu mystérieux, comme tous les textes de l'Apocalypse, il réclame quelques commentaires. L'Apocalypse, c'est un mot qui veut dire « révélation ». Le livre de l'Apocalypse relate les visions de l'apôtre Saint Jean à Patmos. C'est une petite île de Grèce. Saint Jean était relégué en exil par l'empereur Domitien. Le passage que la liturgie nous fait lire aujourd'hui est extrait de la vision des sept sceaux. Dans l'Apocalypse, il y a ainsi divers cycles. Et le cycle des sept sceaux, la vision des sept sceaux, est le premier de ces cycles. Le livre des sept sceaux, c'est un petit livre qui est scellé, que notre Seigneur tient, c'est ainsi dans la vision, il le tient dans sa main. C'est le symbole des décrets divins sur l'histoire, des desseins de Dieu sur le monde. C'est en quelque sorte le plan de salut que Dieu tient en réserve, les secrets, le sens de l'histoire humaine, dont il a fixé le déroulement au fil des siècles. Et ce livre est scellé de sept sceaux précisément. Et seul notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a racheté le monde, est digne d'en ouvrir les sceaux. Il n'y a que lui qui peut le faire. Cela veut dire que notre Seigneur est le maître de l'histoire. Il est le roi, le maître de l'histoire, le seul qui puisse nous révéler le mystère caché de notre destinée surnaturelle, de nos épreuves, de notre bonheur futur. Et cela non seulement pour chacun d'entre nous, au plan individuel, mais aussi au plan général, de toute l'humanité. Nous ne pouvons pas détailler ici tout ce que révèle la rupture successive des sceaux. Disons simplement qu'elle décrit de façon allégorique, comme pratiquement tout livre de l'Apocalypse, ce sont des allégories, des images. Il nous révèle donc de manière allégorique, par anticipation, les luttes que l'Église aura à soutenir contre les assauts du démon, tout au fil de l'histoire. Et aussi le châtiment que Dieu réserve au monde ennemi de Dieu et la récompense promise aux élus. Et c'est spécialement le cas du sixième sceau, celui qui nous intéresse, puisque c'est de ce passage que l'épître a été tiré. À l'ouverture de ce sixième sceau, Saint Jean voit une double vision antithétique opposée qui présente d'un côté le châtiment et la frayeur des ennemis de Dieu voués à la damnation, et d'un autre côté, l'immense cortège des élus qui chantent la gloire de Dieu et de son Christ. Et c'est ce dernier passage que l'Église a choisi pour la fête d'aujourd'hui, ce qui est très bien choisi. Alors Saint Jean, vous l'avez entendu, voit d'abord un ange monté du levant, c'est-à-dire du côté où le soleil se lève, de l'Orient. Et dans la Sainte Écriture, l'Orient symbolise le Christ Sauveur. Ça se comprend facilement. De même que la lumière du jour qui se lève vient de l'Orient, eh bien de même la lumière surnaturelle qui illumine nos âmes, qui nous sauve, vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a pas d'autre source. Cet ange tient dans sa main un cachet, un sceau, avec lequel il va marquer, il va estampiller les élus au front, afin qu'ils soient épargnés lorsque les autres anges, les quatre anges du châtiment dont il a été question avant dans le texte, donc avant que ces quatre anges viennent exterminer le monde pécheur. Ces anges doivent donc sursoir au châtiment tant que le nombre des estampillés n'est pas complet, c'est-à-dire, si on applique, tant que l'évangélisation des peuples de la terre n'est pas achevée, que le nombre des élus n'est pas complet, eh bien tant que cela n'est pas fait, la parousie n'interviendra pas. Et donc le châtiment ultime, le châtiment final, n'interviendra pas. Les élus, donc, sont marqués au front par l'ange. Ils sont marqués du signe de la croix. Le tau grec, la lettre grecque qui s'appelle tau, qui a la forme d'une petite croix, c'est cela la marque que chaque élu, chaque fidèle, va recevoir sur son front. C'est en fait quelque chose qu'on voit, qu'on lit déjà dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, un prophète de l'Ancien Testament, il y a déjà un récit tout à fait analogue. Et vous l'avez entendu, tous ceux qui seront marqués sont appelés serviteurs de Dieu. Le mot exact, en fait, c'est esclaves de Dieu, doulos en grec. Parce que cette marque est le symbole du caractère baptismal et de la grâce baptismale. Or, le baptême fait de nous, en effet, des esclaves de Dieu, les fidèles de Dieu, les serviteurs de Dieu, tenus de lui obéir comme à leur maître et seigneur. Nous appartenons au bon Dieu par notre baptême et nous lui appartenons complètement. Il a sur nous tout pouvoir. C'est donc vraiment bien un esclavage, mais un esclavage d'amour. Vous savez que dans l'Antiquité, on marquait les esclaves, les vrais esclaves et les soldats. Ils étaient marqués au fer rouge pour savoir à qui ils appartenaient, à quel maître ils appartenaient. Mais ici, ça n'est pas un indice d'aliénation dans notre texte, comme c'était le cas pour tous ces soldats ou tous ces esclaves de l'Antiquité. C'est au contraire le signe de la liberté et de la dignité du chrétien. Nous appartenons à Jésus-Christ. Et il faut remarquer que dans l'Apocalypse, il y a deux catégories bien distinctes. Parmi les hommes, il y a ceux qui sont marqués du signe de Dieu, ce dont il s'agit dans l'épître d'aujourd'hui, du signe de la croix, qui ont reçu le baptême, qui sont fidèles aux promesses de leur baptême, qui n'adorent pas la bête, comme dit le texte de l'Apocalypse, qui suivent la loi de Dieu. Et puis tous les autres qui sont marqués du signe de la bête, précisément. La bête, elle intervient beaucoup plus tard dans le livre de l'Apocalypse. C'est l'image de l'Antéchrist, le ministre du démon. Et cette bête marque tous les hommes qui s'adonnent à elle, qui l'adorent, qui commettent le péché et qui sont en quelque sorte ses suppôts dans l'œuvre du mal. Leur âme est vouée au démon et au péché. Ce qu'il importe de noter, c'est qu'entre ces deux catégories, il n'y en a pas de troisième. Il n'y a pas de troisième voie. Ou on est à Dieu, ou on est contre Dieu. Il n'y a pas de troisième possibilité. Et c'est un thème qui est très fréquent dans la Sainte Écriture. Le psaume premier, par exemple, le premier des psaumes du psautier, développe cette idée. Il y a les justes d'un côté et les pécheurs de l'autre. Et entre les deux, c'est comme un abîme. Il n'y a pas de troisième voie. Il faut choisir notre camp. Vous remarquerez que ces élus sont marqués au front. En réalité, cette marque étant le symbole de la grâce et du caractère baptismal, elle se trouve dans l'âme. C'est une marque qui est toute spirituelle, qui est indélébile. C'est une participation à l'être et à l'agir de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comme le front est la partie la plus noble de l'individu, cela nous indique que cette marque du chrétien, c'est son titre de noblesse. Et d'ailleurs, dans la liturgie, notamment dans la liturgie baptismale, vous avez dû remarquer, si vous avez déjà assisté à des baptêmes, que le prêtre verse l'eau sur le front de l'enfant. Et pourtant, c'est bien la grâce qui va passer dans l'âme. C'est l'âme qui est concernée par le baptême. Mais on verse l'eau sur le front de l'enfant. Et après avoir baptisé l'enfant, le prêtre marque le sommet de sa tête, le sommet de son front, avec le Saint-Crème. De même, à la confirmation, l'évêque, quand il oint le confirmé, le oint au sommet du front. Tout cela, vous voyez, nous explique un petit peu le sens de ce texte de l'Apocalypse. Et saint Jean entend le nombre des marqués, de tous ceux qui ont été marqués ainsi par l'ange. Et il distingue deux groupes de marqués. Le premier groupe embrasse 144 000 élus, 12 000 de chaque des 12 tribus d'Israël. Il ne faut pas prendre ce nombre à la lettre, évidemment. C'est une figure. Et Israël, ici, c'est la figure de l'Église. Ces 12 tribus d'Israël, c'est l'Église, l'Église catholique. Pour être sauvé, il faut faire partie des élus. Pour faire partie des élus, il faut faire partie des tribus d'Israël. Il faut faire partie de l'Église. Il faut être dans l'Église. Il faut appartenir au corps mystique de Jésus-Christ. Hors de l'Église, point de salut. C'est un dogme qui aujourd'hui est méconnu, qui est même tout à fait, critiqué et combattu par l'Église conciliaire, hein, par les théologiens de l'Église conciliaire. Mais c'est un dogme. Ce nombre de 144 000 est évidemment symbolique. 1000 dans l'Apocalypse, c'est le symbole d'une multitude quasi infinie. Et 12, le chiffre des apôtres, représente la plénitude. A fortiori, le carré de 12. Or, 144 000, c'est le carré de 12 multiplié par 1000. C'est donc l'expression d'une totalité indépassable et parfaite. C'est le nombre complet des élus, tel que Dieu l'a fixé de toute éternité. Et puis, quant au deuxième groupe, saint Jean dit lui-même qu'on ne peut le compter. C'est une foule innombrable, venue, comme il dit, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. C'est l'image de l'universalité de l'Église et de la variété admirable des saints de Dieu, qui sont issus de tous les états, de tous les genres de vie, qui ont vécu dans tous les points du globe et à toutes les époques. Il y a une variété très grande parmi les saints, qui est admirable. Il y a des modèles pour tout le monde. En réalité, il faut comprendre que ces deux groupes s'identifient. Ils soulignent chacun un aspect différent de la splendeur du ciel. Vous voyez, le ciel est tellement riche qu'il faut plusieurs images pour bien en parler. C'est d'ailleurs très fréquent dans la Sainte Écriture. La Sainte Écriture, vous avez dû le remarquer, si vous avez un petit peu l'habitude de lire l'Évangile ou les textes de la Sainte Écriture, procède beaucoup par images. Et comme nous ne sommes que de pauvres humains, on ne peut pas tout comprendre d'un coup, on ne voit pas tout dans un seul regard, on n'est pas des anges, eh bien il faut que les images soient multipliées pour nous faire bien saisir tous les aspects des mystères et des vérités qui nous sont révélés. Et c'est le cas ici. Alors, vous avez pu vous remarquer aussi dans ce texte que ces élus portent la robe blanche. La robe blanche symbolise l'innocence baptismale conservée ou retrouvée, si on l'a perdue par le péché. C'est la robe nuptiale de l'Évangile dont parle la parabole des noces. Et puis, ils ont des palmes à la main parce qu'ils ont vaincu. La palme, c'est le symbole de la victoire. Les saints du ciel sont ceux qui ont vaincu. Ce sont des vainqueurs. Ils ont vaincu le démon, ils ont triomphé du monde et de toutes ses séductions pendant leur vie, et surtout ils se sont vaincus eux-mêmes. Ils sont restés fidèles aux promesses de leur baptême. Ils n'ont pas souillé leur âme. Un peu plus loin, le texte de l'Apocalypse dit « Ils ont triomphé de la grande tribulation ». C'est une belle expression. La grande tribulation, on peut l'appliquer bien sûr aux martyrs, à ceux qui ont subi des persécutions physiques, mais on peut l'appliquer à toutes les épreuves de la vie. La vie chrétienne est semée d'épreuves. Dans le parcours que chacun nous devons mener jusqu'à notre mort, il y aura beaucoup de difficultés, de souffrances, d'épreuves. C'est une tribulation. Il faut triompher de cette tribulation. Et le texte ajoute, ils ont lavé leur robe et l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. Il faut laver sa robe pour qu'elle soit bien pure, bien immaculée, bien blanche. Et on l'a blanchi dans le sang de l'agneau, c'est paradoxal. Le sang, c'est rouge, mais c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui rend nos âmes pures, blanches. Et puis enfin, il est dit de ces élus qu'ils crient. Le mot est un peu étonnant. Ils crient, ils clament. C'est un présent d'ailleurs dans le texte grec, et c'est intéressant de le noter. Dans le texte latin, dans les traductions, la traduction que nous venons de lire, c'est un imparfait. Mais dans le grec, c'est un présent. Ce cri, c'est l'adoration, la louange que les élus adressent à Dieu. Et cette louange, elle est continuelle. C'est ça que signifie le présent. Ils sont toujours en acte de louange. Jamais ils n'arrêtent de louer Dieu et de l'adorer. Alors, le texte dit ce qu'ils crient. Voici ce qu'ils disent. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Les élus du ciel, vous voyez, ne s'attribuent pas à eux-mêmes leur victoire. Il l'attribue à Dieu seul et à notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau. L'agneau, c'est notre Seigneur. À travers eux, à travers tous ces saints, c'est notre Seigneur qui est l'objet de ce triomphe solennel. On peut dire que c'est lui, en quelque sorte, qui est le personnage principal de toute cette scène. Et c'est lui, d'abord, qu'il faut considérer au travers des élus. De même que Jésus pouvait dire à Saul, le futur saint Paul, sur la route de Damas, « C'est moi que tu persécutes ». Eh bien, de même, il peut dire aux élus qui se sont sanctifiés, « C'est moi que tu glorifies par ta sainteté, mais c'est par moi que tu t'es sanctifié. » C'est vraiment notre Seigneur qui est, en quelque sorte, le héros de toutes ces choses, de toutes ces vérités. Et c'est important pour nous de bien le réaliser. Il ne faut surtout pas ramener à nous nos bonnes œuvres. Il faut les attribuer à Dieu. Si un jour nous sommes au ciel, nous pourrons dire en toute vérité que ce sera grâce à Dieu et à Dieu seul. Alors sans doute nous aurons coopéré. On ne peut pas aller au ciel sans coopérer, c'est évident. Si nous ne coopérons pas, ben nous ne pourrons pas aller au ciel. Mais il reste tout de même que la grâce et la récompense du ciel, c'est à Dieu seul que nous les devons. C'est à sa miséricorde. Ce n'est pas à cause de nos mérites à nous. La suite du texte montre que ce triomphe des élus donne lieu à une véritable liturgie céleste qui est pleine d'allégresse. Il faut relire ces textes, c'est enthousiasmant pour notre vie spirituelle. Les anciens étaient très friands de ces choses-là. C'est ça qui nourrissait la vie de leur âme. On voit cette scène, donc les anges, les vieillards, les quatre vivants, c'est-à-dire toute la cour céleste qui entoure le trône de Dieu, qui font cercle autour des saints et qui s'unissent à leur chant d'action de grâce. Et même un petit peu plus loin, au-delà du passage que l'Église a retenu pour cette épître, on voit un des vieillards, donc un des personnages de la cour céleste, qui pose la question, en parlant des élus, des saints, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Eh bien, cette question n'est pas inintéressante. Elle montre tout l'intérêt que le ciel porte à l'humanité rachetée. Les saints ne se désintéressent pas de notre sort. Ils nous aiment et ils pensent beaucoup plus à nous qu'on ne le croit. Nous, nous n'y pensons pas, ou peu, et c'est bien dommage. Mais les saints, eux, prient pour nous. Nous faisons partie de leur famille. Quant aux élus, eux-mêmes, ils sont entrés, à partir du moment où ils se trouvent au ciel, dans l'état de béatitude et de vision béatifique. Et le texte manifeste cela en disant « Ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. » Ils sont devant le trône de Dieu. C'est un état, c'est une belle manière d'exprimer l'essence de la béatitude éternelle. Ils servent Dieu jour et nuit. Ils voient Dieu face à face. Et le texte continue, « Dieu les abritera sous sa tente, c'est-à-dire les admettra dans son intimité, leur dévoilera sa grâce, sa nature intime. Au ciel, on verra Dieu face à face. Ici, nous ne le voyons que dans l'obscurité de la foi. C'est bien obscur, c'est difficile. » Et puis enfin, le texte nous indique aussi les effets de cette béatitude pour les élus. Ils n'auront plus faim ni soif, l'ardeur du soleil ne les accablera plus, ni aucune chaleur brûlante. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Tout ça pour dire qu'ils seront délivrés de tous les tourments et de toutes les épreuves terrestres. Pardon. Alors il faut conclure. Cette vision des élus du ciel doit d'abord nous réjouir. C'est la première chose que l'Église nous fait faire aujourd'hui. L'introïte a dit « Réjouissons-nous tous dans le Seigneur en célébrant ce jour de fête en l'honneur de tous les saints. » Il faut se réjouir. Ils sont nos frères. Là encore, nous n'y pensons pas assez. Et ils sont les amis de Dieu. Et nous, nous sommes appelés à le devenir de plus en plus. Le monde où ces saints habitent, c'est notre patrie à nous aussi. Nous sommes faits pour le ciel, on n'est pas fait pour rester sur cette terre. Cette terre, c'est un lieu de passage. Nous sommes ici en exode. Donc nous sommes appelés à rejoindre tous ces saints. Alors le fait de penser à eux, de se réjouir du sort qui est le leur et d'honorer notre Seigneur en eux, tout cela nous porte au désir du ciel. C'est la première chose que l'Église veut nous faire faire aujourd'hui. Et puis ensuite, nous devons bien réaliser qu'ils ne sont pas devenus saints sans effort. Sans combat ni prière, ils ont vaincu. Vous voyez l'insistance que tous ces textes de l'Apocalypse met sur le fait de vaincre, de lutter. Nous sommes ici-bas dans un état de guerre en quelque sorte. Il nous faut vaincre. Il est dit de ces saints, nous avons lu ce texte tout à l'heure, là à l'instant, ils ont lavé leur robe et l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. Il faut laver sa robe, il faut la blanchir dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire s'unir au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne devient pas saint par la facilité. On ne devient pas saint sans se faire violence, sans fatigue, sans sacrifice, sans mortifier sa chair et son amour propre surtout. Le royaume des cieux appartient aux forts, aux violents même, dit notre Seigneur. Ce sont les violents qui le ravissent. Il faut ravir à la pointe de l'épée le ciel. Saint Augustin, quand il pensait à toutes ces choses, qu'il méditait toutes ces choses au moment où il s'est converti, quand il était à Milan, juste avant son baptême, réfléchissait en considérant les martyrs, tous ces martyrs qui, pendant les trois premiers siècles de l'Église, ont été si nombreux. Parmi eux, il y avait des gens de toutes catégories, des enfants, des femmes, des mères de famille, des pères de famille, de simples citoyens, des agriculteurs, des gens tout simples, mais profondément chrétiens. Alors saint Augustin se disait, si ceux-ci et celles-ci sont arrivés à la sainteté, si eux ont été capables de faire ces choses, par la grâce de Dieu évidemment, pas par leur propre force, pourquoi ne le pourrais-je pas? C'est la question qu'il faut nous poser. Pourquoi ne le pourrais-je pas? Bien sûr, si nous comptons sur nous, sur nos forces, c'est perdu d'avance. Mais si nous comptons sur la grâce de Dieu, alors oui, c'est possible, et c'est même facile, c'est la voie normale. La grâce nous est offerte, On n'imagine pas la puissance de la grâce. On n'est pas assez surnaturel. Ce qui manque, c'est pas du côté de Dieu qu'il y a une défaillance. C'est de notre côté à nous. Ce qui manque, c'est notre adhésion pleine. Eh bien, demandons à la Vierge Marie qu'elle nous donne une forte résolution pour vraiment vouloir être saint et demander à Dieu toutes les grâces qui sont nécessaires pour cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.